n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci. Commençons par saluer notre invité habituel, à qui je laisse la parole pour vous adresser ses salutations. Bonjour Ahmed.
Bonjour Augustin, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. On revient chaque samedi de 8 à 10. On est toujours là, on sera toujours là.
C'est ça. Oh, merci beaucoup Ahmed. Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs. De Cheese 94.3 FM et de Son de Cloche, l'émission préférée de beaucoup, ici et à travers le monde, pour toutes ses formes d'expression, anodine, remarquable ou extraordinaire, locale ou globale, artistique, scientifique, sociale ou autre, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion à tous les points de vue d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Becci et vous exprime, comme toujours, la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Notre thème du jour est le choix du courage. On dit que l'excellence d'un homme se mesure à ses vertus régulièrement mises en avant. Le courage, la modération ou tempérance, la justice, la sagesse, plus ou moins identique à la sagacité, et enfin la piété. Le courage, dit-on aussi, est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. On dit aussi que c'est une disposition particulière pour tel devoir, telle bonne action. La vertu est l'excellence morale. C'est un concept majeur de la philosophie. Cette notion est également à l'intersection de la religion et de la politique, un des objets majeurs de réflexion des philosophes. La vertu est polysémique et a été définie par de nombreux penseurs en des termes différents. Nous avons quelques collaborateurs, quelques collègues, comme Ahmed, comme Mathilda, qui contribue énormément à Son de Cloche. Mathilda nous a suggéré que pour le courage, il y a la tentation de parler des tragédies grecques comme Antigone, Electre, etc., qui racontent l'histoire d'un choix du courage qui est presque une folie puisqu'il va contre les intérêts des personnages mais répond à une nécessité presque divine, celle de l'amour, qu'il soit fraternel ou passionnel, et qui se traduit dans une volonté de préserver l'honneur de l'autre qu'on aime, parfois au détriment de notre propre honneur. Le choix du courage évoque à Mathilda le sacrifice de soi, souvent en connaissance de cause, puisque être courageux, contrairement à être fou, c'est savoir quelles sont les conséquences de nos actes et ce qu'on risque à travers eux. C'est un sacrifice réfléchi et fait au nom d'une cause plus grande que soi. Mais a-t-on vraiment le choix? Ou est-ce que le courage s'impose à nous? Quelle est l'alternative du courage? Est-ce la lâcheté? Mais la lâcheté n'est-elle pas une marque de courage à retardement? Un courage qu'on se garde pour le futur, comme si on renonce au combat présent, mais qu'on se réserve le droit raisonnable d'être courageux un autre jour. Les Zoulous disent d'ailleurs, à juste titre, le lâche s'enfuit pour se battre un autre jour. Mais faisons d'abord une petite parenthèse au niveau africain, parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations actuellement.
Mm-hmm.
Oui, c'est... je sais de sources sûres que Ahmed n'est pas un bon Africain parce que il n'est pas fou de foot. Mais je laisse Ahmed vous dire pourquoi lui n'est pas fou de foot. Et puis nous allons passer une musique africaine qui rappelle un petit peu cette folie qu'il y a sur le continent parce que se joue la Coupe d'Afrique des Nations.
Écoute. Déjà, pour expliquer, c'est la Coupe d'Afrique de ce corps, comme on dit ici, du football qui a commencé
exact.
En Côte d'Ivoire. En fait, la Coupe d'Afrique, c'est l'équivalent, pour que tout le monde comprenne, la Coupe du Monde. Mais c'est en Afrique. Bah, tout le monde a la rage du soccer, du football. Et moi, j'en ai des rages dans d'autres parts, mais pas au football. Parce que moi, je suis un petit peu partisan de ce qu'on appelle le football et l'opium du peuple. Tu vois.
Mm-hmm.
Et j'adhère un petit peu à ce qu'a dit Kadhafi à l'époque. Et pourquoi vous courez derrière un ballon? Chacun prend un ballon et court derrière, c'est correct. Pourquoi vous vous battez autour
pour
d'un ballon?
Pour un seul ballon.
Voilà. Et, bah, c'est ça. En fait, mon problème à moi, c'est que... Bon, c'est pas un problème, mais ma vision critique sur le soccer, c'est qu'il est sorti du domaine sportif, il est devenu du marketing, c'est devenu de l'argent. Et je crois que cette industrie doit investir dans les peuples au lieu de les appauvrir. C'est ça. Et faire passer des bonnes choses au peuple que vraiment de voir juste de la publicité. Et malheureusement, par rapport à la Coupe d'Afrique, beaucoup de trucs qui sont louches, qui tournent à travers la CAF, à travers tout ce qui se passe au monde de football en Afrique. C'est pour ça.
Est-ce que nous devons comprendre que, selon toi, le football aujourd'hui en Afrique est une distraction de plus?
Oui. C'est un ascenseur social, de une.
Oui.
Parce que là, je vois tout le monde genre, hey, mon fils, va jouer. Tu deviendras Neymar ou Mbappé ou Cristiano Ronaldo et comme ça, tu peux gagner ta vie et élever la classe de la famille.
Exact.
Mieux que, hey, mon fils, va étudier. Malheureusement, l'échelle sociale des études, elle est cassée. De l'autre part du monde, bien sûr, je parle.
Mm-hmm.
Et là, tout le monde veut que son fils soit un Mbappé ou soit un Cristiano Ronaldo ou Messi.
Écoutons Akendenge, Africa Obota.
Ha, olin kompa yon wa Boningo, Asapili Unite, Akavia Bunjem, Akavinjua.
Oui. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de courage, Ahmed, pour être un sportif de haut niveau aujourd'hui en Afrique?
Oui, pour vraiment, pour pas que le soccer, si on parlait de ça, du football, non, pas que ça. Il y a beaucoup de disciplines sportives en Afrique qu'il faudra vraiment du courage pour exceller. Parce qu'il y a toujours le manque de moyens. Il n'y a pas que ça. Je te réfère à tous les athlètes qui gagnent en Jeux Olympiques. Ils ont des records sur tout ce qui est demi-fond et des distances entre au-dessus de 3000 mètres, là, 3000 et plus. Ils viennent de l'Afrique subsaharienne, la plupart.
Oui, mais... plus spécifiquement de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, parfois, oui.
Oui. Et ça, c'est des gens qui, vraiment, il y a du courage parce que c'est un manque de moyens. Ils commencent très tôt et ils courent à une altitude genre 3000 mètres où il y a vraiment de l'effort physique. Mais je vois que qui a vraiment du courage, c'est le père de famille, la mère de famille, qui nous écoute déjà, qui se lève tôt, qui font un travail, qui prennent le bus ou le char ou à pied ou à vélo ou quel que soit le moyen de locomotion.
De locomotion.
Il y a des gens qui partent au travail sur dos d'animaux.
Oui.
Pas que quatre roues, deux roues, sur deux pieds.
Non.
Il y a des gens dans, et bah, tout ça, c'est vraiment, de fait, s'élever chaque matin pour dire, je vais travailler pour moi, c'est un courage. Le fait de persévérer et dire, on est toujours là, c'est du courage aussi.
Je suis d'accord avec toi parce que les chefs de famille, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ça peut être les deux,
oui,
qui doivent se lever très très tôt, faire un travail difficile et très dur pour presque rien, pour tenir à bout de bras une famille exigeante.
Oui.
Nous sommes d'accord, toi et moi, que c'est du vrai courage. Maintenant, on a parlé des marathoniens ou des coureurs de fond et de demi-fond africains, parce que j'en ai connu aussi quelques-uns en Afrique du Nord, les Saïd Awita.
Ah oui.
Oui. Bon, généralement, ces athlètes-là vivent dans des zones montagneuses.
Écoute, je te coupe un petit peu. Tu m'as fait penser à Mohamed Ghamoudi.
Bon, voilà, c'est
Ghamoudi,
ça.
Ghamoudi, c'est le premier athlète qui a eu la médaille dans les années 60, 63, je crois que j'ai oublié. Bon, les années 60, la première médaille d'or olympique pour la Tunisie. Mohamed Ghamoudi vient d'une région très pauvre.
Okay.
Il n'y a pas de souliers.
Okay.
Il court, et il a appris à courir dans les montagnes. Pas de route. Hein, pour que tout le monde nous comprenne, il court dans les sentiers là, sans souliers, et il courait chercher. Bah, son père lui donnait de l'argent, genre quelques sous, pour acheter des trucs à l'épicerie qui est à 20 km. Pour comprendre. Et Ghamoudi courait du point A qui est son père qui a donné des sous, au point B qui est l'épicerie à 20 km. C'est-à-dire qu'il va faire 40 km aller-retour, bah 20 et 20, 40.
Oui.
Et comme ça, il s'entraînait. Avant qu'il entre il fait son service de l'armée. Et là, les sergents, ils découvrent quelqu'un qui est inépuisable. Il n'y a pas de fatigue. Il court tout le temps. Ils ont dit, allez, on va t'enrôler dans tout ce qui est sport militaire. Il a excellé. Tu sais quoi? Tu fais ton service militaire et pas payé, pour être clair. Et là, tu vas courir pour la Tunisie. Je me souviens, mon père me disait, une fois, il a vu Mohamed Ghamoudi courir. Avant de courir, il prend un bol de ce qu'on appelle lait concentré, là, le très sucré, là, le lait qu'on peut diluer dans l'eau. Mais il boit ça, que ça, et il court. Tout le monde personne ne peut le rattraper, en fait.
Donc, son corps s'était habitué à une sorte de potion magique.
C'est ça. C'est ça. C'est la solution de Popeye, si on peut dire ça, à Ghamoudi. Mais vraiment, jusqu'à maintenant, c'est l'icône, vraiment. Il sort du nulle part, le monsieur. Il sort des montagnes rocheuses du sud-ouest de la Tunisie.
Alors, ce que tu viens de nous évoquer là, c'est une histoire contemporaine. Mais regardons aussi un peu ce que l'histoire nous enseigne. Il y a fort longtemps, Hercule, de la mythologie, s'est trouvé à la croisée des chemins. C'est à une paisible intersection au milieu des collines, à l'ombre des pins, au tronc noueux, que le héros de la mythologie grecque rencontra son destin pour la première fois. Où et quand cela se passa-t-il exactement, nul ne le sait. Ce moment nous est raconté par Socrate. Il a été représenté dans les plus belles œuvres artistiques de la Renaissance. Nous percevons l'énergie bouillonnante, l'imposante musculature et le tourment du colosse dans la cantate de Bach. Parce que là, avant que l'homme n'accède à la gloire éternelle, avant les 12 travaux, avant qu'il ne change le monde, Hercule fut confronté à un choix qui allait bouleverser le cours de son existence et qui était aussi réel que ceux auxquels nous sommes aujourd'hui nous-mêmes confronté. Où allait-il? Où voulait-il aller? Telle était la question. Seul, anonyme, hésitant, Hercule, comme tant d'autres, ne le savait pas. Sur l'un des chemins l'attendait une magnifique déesse qui le soumit à toutes sortes de tentations. Parée de beaux atours, elle lui promit une vie facile. Elle lui jura qu'il ne ressentirait jamais le manque, le malheur, la peur ou la douleur. « Suis-moi, lui disait-elle, et tous tes désirs seront comblés. » Sur l'autre chemin se tenait une déesse plus austère, vêtue d'une robe blanche immaculée. Son appel était moins insistant. Elle ne lui promit, comme récompense, que celle qui résulterait d'un dur labeur. Elle lui dit que ce serait un long voyage. Il faudrait faire des sacrifices. Il y aurait des moments effrayants, mais ce serait un voyage digne d'un dieu. Cela ferait de lui celui que ses ancêtres voulaient qu'il devienne. Cela s'est-il réellement produit? Cela a-t-il de l'importance si ce n'est qu'une légende? Oui, parce que cette histoire nous concerne. Nous sommes confrontés à un dilemme. Nous sommes à la croisée des chemins. Hercule avait le choix entre le vice et la vertu. La voie facile et la voie difficile. Le chemin le plus emprunté et le chemin le moins fréquenté. Nous sommes tous confrontés à ce choix. N'hésitant qu'une seule seconde, Hercule choisit celui qui fit toute la différence. Il choisit la vertu. La notion de vertu peut paraître démodée. Pourtant, la vertu, arrêtée en grec ancien, désigne quelque chose de très simple et de très intemporel. L'excellence morale, physique, mentale. Dans l'Antiquité, la vertu se composait de quatre éléments essentiels. Le courage, la tempérance, la justice, la sagesse. Pour l'empereur philosophe Marc Aurèle, ce sont des piliers du bien. Pour des millions d'entre nous, ce sont des vertus cardinales, quatre idéaux quasi universels adoptés par le christianisme et la philosophie occidentale, mais aussi appréciés par le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les philosophies possibles et imaginables. Ou presque. Elles sont dites cardinales. Non, parce qu'elles ont été dictées par des autorités religieuses, mais parce qu'elles puisent leurs origines dans le mot latin cardo, qui signifie charnière. C'est un élément pivot. C'est l'élément sur lequel repose la porte qui ouvre sur la belle vie. C'est aussi le sujet qui nous interpelle aujourd'hui. Quatre livres, quatre vertus, un but, nous aider à choisir. Courage, bravoure, force d'âme, honneur, sacrifice. Tempérance, maîtrise de soi, modération, sang-froid, équilibre. Justice, équité, serviabilité, fraternité, bonté, gentillesse, sagesse. Connaissance, éducation, vérité, introspection, paix. Ce sont les piliers d'une vie d'honneur, de gloire, d'excellence dans tous les sens du terme. Des traits de caractère que John Steinbeck décrit comme étant plaisants et désirables pour leurs détenteurs et qui lui font accomplir des actes dont il peut être fier et satisfait. Ce « il » désigne toute l'humanité. Il n'y a pas de féminin pour le mot « virtus » dans la Rome antique. La vertu n'étant pas masculine ou féminine, elle était, tout simplement. Elle est toujours. Que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance, ni que vous soyez fort physiquement ou maladivement timide, un génie ou d'intelligence moyenne, la vertu est un impératif universel. Les vertus sont corrélées et inséparables. Pourtant, chacune est distincte des autres. Faire ce qui est juste demande du courage. Tout comme la discipline est impossible sans la sagesse de savoir faire le bon choix. À quoi bon avoir du courage s'il n'est pas appliqué à la justice? À quoi bon détenir la sagesse si elle ne nous rend pas plus modestes? Nord, sud, est, ouest, les quatre vertus sont une boussole. Ce n'est pas un hasard si les quatre directions d'un compas se nomment les points cardinaux. Elles nous guident, elles nous montrent où nous sommes et nous aident à nous orienter. Aristote décrit la vertu comme une sorte d'art, un but à poursuivre, tout comme l'on poursuit la maîtrise d'un métier ou d'un savoir-faire. C'est à force d'exercer leur art que les musiciens, les architectes et les autres artistes de tout genre deviennent bons ou mauvais, écrit-il. C'est dans les occasions où il y a des dangers à braver que nous prenons des habitudes de timidité ou de courage, que nous devenons ou lâches ou courageux. La vertu s'exerce. C'est un choix. Celui d'Hercule n'est pas un acte isolé. C'est un défi quotidien, un choix auquel nous sommes confrontés non pas une fois mais constamment, de façon répétée. Serons-nous égoïstes ou altruistes? Courageux ou peureux? Forts ou faibles? Sages ou stupides? Cultiverons-nous une bonne attitude ou une mauvaise? Le courage ou la lâcheté? La bénédiction de l'ignorance ou les défis de la nouveauté? Resterons-nous les mêmes ou évoluerons-nous? Choisirons-nous la voie de la facilité ou la voie juste? Nous allons prendre une transition musicale suivie d'une pause publicitaire et nous vous revenons tout juste après.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Nemo, on a une nouvelle mission.
Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale! Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveautés de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues,
écoute locale! La playlist,
lundi, 14h, on sauve la musique
à Chiz 94.3.
Ahmed, j'aimerais savoir, avoir ton son de cloche sur cette pensée de Léon Tolstoï que je m'en vais lire sur fond musical de Augustin Betty. Il n'y a pas d'acte dans cette vie qui soit si impossible que vous ne puissiez le réaliser. Votre vie entière devrait être vécue comme un acte héroïque.
Tout à fait. Bah, t'as tout résumé. C'est un acte héroïque ce qu'on fait, ce qu'on vit là. C'est tout le monde. C'est pas que... Bah, tout le monde a son rythme, tout le monde a son challenge devant lui.
Et ce n'est pas moi, c'est Léon Tolstoï, parce que
oui.
j'aurais été incapable de résumer. Merci beaucoup.
La modicie, là. Non. Mais déjà, je conseille tout le monde pour entrer sur ta chaîne YouTube, genre Augustin Bitty, pour écouter vraiment de la bonne musique. Des bonnes paroles aussi.
Merci beaucoup.
Et c'est ça, en fait, la vie est un lent fleuve qu'on parcourt. Du premier jour aux naissances au dernier soupir. Je crois que nos âmes aussi rôdent encore, les âmes de nos ancêtres qui rôdent encore quelque part pour veiller sur les générations. Oui, sur nous, sur les générations à venir. C'est ça. Et je crois aussi que le courage, c'est pas juste de vraiment passer à travers ça, c'est aussi de laisser une empreinte positive, soit pour sa famille, soit pour sa job, soit pour l'humanité tout entier, chacun dans son domaine de fer ou son calibre. Je voudrais juste, comme d'habitude, faire la définition du courage, comme c'est écrit, vous pouvez checker sur Google. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. Ma question.
Oui.
Est-ce qu'on est des héros? Pas des héros. Est-ce qu'on est des héros?
Quelque part, oui, parce que ce n'est pas évident de se lever tous les matins. Rien que rien que le fait de se lever est déjà un acte de courage.
Oui.
Parce que il faut lutter contre l'attraction terrestre. Quelque chose qui nous maintient couchés. Oui, il faut donc déjà se faire violence pour se mettre debout. Bon. Une fois debout, il faut vaquer à des occupations.
Oui.
Bon. Je trouve que c'est un courage à plusieurs niveaux. Il faut se lever, il faut agir, il faut agir dans le bon sens.
Oui.
Toutes ces actions nécessitent un certain courage qu'il faut avoir.
Oui, ça, le courage. Je dirais les courages, il y en a plusieurs.
Oui, exactement.
Chaque mère de famille ou père de famille, aux yeux de ses enfants ou même de sa famille, ça, c'est l'idole. C'est-à-dire pour ses enfants, ou l'idole pour une femme, pour ses enfants. Parce que...
Excuse-moi, quand je regarde, quand je fais un peu la comptabilité des petits déjeuners, des repas qu'une femme fait au cours de sa vie pour ses proches, c'est un courage incroyable.
C'est sûr. Alors là...
Les soins qu'un chef de famille, ça peut être un homme, une femme, pour soutenir sa famille, des choses qu'on est obligé de faire pour presque rien.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un courage incroyable.
Et comme je dis, chacun avec son palier.
Parce qu'on voit surtout le courage du soldat, le courage héroïque. On parlait là du courage des sportifs qui couraient nu-pieds. Mais...
Il n'y a pas que ça, il y a le courage des gens qui se lèvent contre l'oppression.
Voilà.
Il ne faut pas les oublier.
Oh, ben,
ça,
oui.
Il reste dans la mémoire collective que je parlais tout à l'heure.
Exactement.
Les gens qui sont soulevés. Bah, maintenant, on parle de Nelson Mandela. Un des plus grands, des grandes personnes durant l'histoire de l'humanité, que s'est soulevé contre son oppresseur. Spartacus,
à
l'époque romaine. Il n'y a pas que ça. Genre. C'est chaque peuple, ou chaque civilisation, ou chaque créneau de notre histoire de l'humanité, on devra saluer les gens qui sont levés contre l'Europe. Sont levés pour tout ce qui est liberté qu'on jouit encore.
Exact.
Il y a des monuments à leur honneur, mais aussi il y a des monuments à l'honneur des soldats. Ce qu'on appelle le soldat perdu, le monument des soldats perdus. Que chaque camp, chaque pays ou chaque nation honore en allumant un feu. Ou en revivant, en faire ce feu comme...
Le soldat inconnu.
Le soldat inconnu, c'est ça. C'est pour se souvenir qu'il y a des gens qui ont pris leur courage et sont battus pour les libertés qu'on a maintenant.
Tu viens de rappeler aussi, au niveau contemporain, quelque chose que Ryan Holiday, dont nous partageons quelques bonnes feuilles, a rappelé dans son fameux livre « Le choix du courage ». Il y a un titre ici que j'aimerais partager avec nos auditeurs et toi. « Vous devez brûler le drapeau blanc ». La capacité à résister est une chose, refuser de se rendre en est une autre. On raconte qu'Épictète, torturé par son maître qui s'attendait à ce qu'il le supplie d'arrêter, l'avertissait calmement, encore et encore, que sa jambe était sur le point de se briser. Finalement, elle cassa. « Qu'est-ce que je disais ? » demanda-t-il. C'est cet engagement, cette persévérance qui transcende la simple capacité à résister. Épictète ne pouvait pas, ne voulait pas laisser son esprit se briser. Il ne voulait pas céder à l'amertume ou au désespoir. C'est ainsi qu'il survécut à 30 ans d'esclavage et à l'exil. Caton refusa non seulement de se rendre à César alors qu'il se battait pour préserver la République romaine, mais il exigea que personne ne demande la pitié ou la clémence en son nom, car cela aurait signifié qu'il avait été battu, qu'il avait été conquis par les forces de la tyrannie, et ce n'était pas le cas. C'est ce que fait un héros. Il brûle non seulement les bateaux derrière lui, mais aussi le drapeau blanc. Dans son célèbre discours « La liberté ou la mort », inspiré par Caton et sa propre résistance, Emmeline Pankhurst souligna ce type d'engagement. Je cite « Tant que les femmes consentiront à être injustement gouvernées, elles le seront. Mais les femmes disent sans détour, nous retirons notre consentement. Nous ne serons pas gouvernées tant que le gouvernement sera injuste. Ce n'est pas par les forces de la guerre civile que vous pouvez gouverner la femme la plus faible. Vous pouvez tuer cette femme, mais elle vous échappe alors. Vous ne pouvez pas la gouverner. Aucune puissance sur terre ne peut gouverner un être humain, aussi faible soit-il, qui refuse son consentement. » Fin de citation. Nous comprenons que, bien que certaines situations puissent exiger une retraite tactique, nous ne nous rendrons jamais au grand jamais. Ils peuvent vous exclure, ils peuvent vous enchaîner, ils peuvent confisquer vos biens. Ils peuvent vous humilier dans la presse. Ils peuvent vous traîner en justice. Ils peuvent déployer toutes les ressources de leurs entreprises contre vous. Ils peuvent vous bannir en vous envoyant sur un rocher au milieu de l'océan. Ils peuvent vous enlever beaucoup de choses, mais tant que vous êtes en vie, ils ne peuvent pas vous faire abandonner. Des émeutiers incendièrent le bus dans lequel les Freedom Riders étaient arrivés. Savez-vous ce que firent les Riders? Ils prirent le bus suivant. Ils se firent recoudre à l'hôpital et poursuivirent leur combat, parce qu'ils avaient une cause pour laquelle se battre. Si vous voyez le président, dit Grant à un journaliste alors qu'il se préparait à attaquer Lee, dites-lui de ma part que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il n'était pas sûr de pouvoir gagner, mais il disait, comme les Spartiates, qu'il allait revenir avec son bouclier. Comme nul ne peut sincèrement promettre la victoire, Grant s'engagea à donner tout ce qu'il lui était possible de donner, y compris sa vie. Les stoïciens déprécient la douleur physique, mais ce n'est pas de la vantardise, écrit James Stockdale. Ils en parlent en comparaison de l'agonie dévastatrice de la honte qu'ils imaginaient, que les hommes de bien éprouvaient lorsqu'ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils avaient manqué à leur devoir vis-à-vis de leurs semblables ou de Dieu. C'est de l'âme que le héros tire son véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de savoir qui a une plus grande armée, de meilleures armes, ou qui a le dossier le plus solide ou le plus gros budget. Celui qui n'abandonnera jamais sera le vainqueur. Si ce n'est pas maintenant, alors plus tard. Si ce n'est pas dans cette vie, alors dans la suivante. Si Sukchi Derit, Dehenu Puknat, si ses jambes lui font défaut, il se battra à genoux. Ils se relèveront même si ce n'est pas littéralement possible. Churchill n'était pas sûr que la Grande-Bretagne puisse tenir le coup. Nul ne pouvait l'être. Il était sûr de la façon dont il réagirait si les nazis arrivaient. « Que devons-nous faire ?» lui demanda sa belle-fille. « Rien ne t'empêche de prendre un couteau à découper dans la cuisine, » lui répondit-il. « Rien ne peut t'empêcher de tuer quelques-uns de ces salauds. » Personne ne dit qu'ils ne finiront pas par vous battre. Seulement que se rendre est un choix. Abandonner votre cause, c'est votre choix. Résister jusqu'à votre dernier souffle. Hemingway nous rappelle que même s'il est certainement possible d'être détruit par la vie, par l'ennemi, par un mauvais coup, personne ne peut nous vaincre. C'est à nous de décider. En notre pouvoir, c'est en notre pouvoir. Et ça n'arrive que si on abandonne. La seule façon de perdre est d'abandonner son courage. La défaite est un choix que les courageux ne font jamais. La défaite est un choix que les courageux ne font jamais.
Oui.
Est-ce que c'est réaliste?
C'est réaliste, c'est utopique, genre. Je suis pas très réaliste. Parce que le fait, ça dépend de notre point de vue. Mais le fait de, pas que battre en retraite, mais le fait... surtout, ça me fait rappeler toujours la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que le fait de capituler, c'est un acte de courage ou c'est un acte de lâcheté? Pour préserver son peuple, des tueries, est-ce que c'est un acte de courage? C'est ça, en fait, et des pinces, comme on parlait l'autre fois.
Oui.
Mais... le courage en lui-même, il y a plusieurs définitions et plusieurs aspects que chacun de nous a son propre courage. Il n'y a pas un seul courage pour tout le monde. On sait que le courage, c'est vraiment c'est le fait de ne pas lâcher prise, d'être toujours là, malgré malgré tout, malgré la fatigue, malgré, par exemple, l'insomnie, malgré le froid, on est là. Mais ça diffère d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, d'une civilisation à une autre. Au cours de l'histoire, on a vu des hommes et des femmes dont la bravoure est légendaire. Il y en a d'autres qui... Bon, leur vision a été un petit peu différente. C'est pour ça que on essaye de cerner tout ça, de voir, est-ce que vraiment il y a un fil conducteur avec tout le courage? Est-ce qu'il y a un seul courage, déjà?
Ben, au début de l'émission, nous avons commencé avec le point de vue de Mathilda, qui soulignait que le courage n'était pas la folie. Bon, à partir du moment où le courage convoque notre discernement, ça devient donc un choix personnel,
oui,
à chaque fois, qui dépend donc des circonstances. Et là, on est revenu à la sagesse des Camerounais qui dit que « it depends on where you sit »,
oui,
parce que ton « viewpoint » n'est pas mon « viewpoint ».
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et surtout dans la... mes mouvements politiques,
uh-huh,
mon syndicaliste,
uh-huh,
dans tout ce qui est militantisme.
Oui.
On dit toujours qu'on a par exemple 10 km à faire. Uh-huh. Il y en a qui laisseront tomber dans les premiers mètres, les premiers 100 mètres. Et il y en a qui arrivent au dernier mètre, qui disent on est fatigué. Le courage, ça dépend de chacun de nous, mais vraiment, je crois qu'il n'est pas individuel, le courage. On cherche le courage en fond de nous aussi, mais on le cherche dans nous autres.
Dans le, oui,
oui,
à côté de nous,
à côté de nous,
avec nos alliés,
ou
parfois
famille,
nos adversaires.
Nos alliés, notre adversaire. Si on respecte notre adversaire, on a plus de courage de le faire face. Dans notre histoire, dans notre héritage, dans notre futur, qu'est-ce qu'on veut faire? Tout ça, ça rentre en jeu. C'est des équations à plusieurs variables, si on parle de mathématiques.
Mmh.
C'est à nous de faire cette équation et avoir un résultat. La plupart des gens, lorsqu'ils sentent le courage, ils explique-moi le courage, qu'est-ce que vous sentez? Ils sentent des nœuds, de la sueur, de la palpitation. Mais après, qu'est-ce que vous sentez? Je dis, on se lance. Ça, c'est la montée d'adrénaline. Si on parle de facteurs chimiques dans le corps humain, le courage nécessite un boom à l'intérieur de nous. C'est comme une explosion dans nos organes vitaux. Il y a ce qu'on appelle le dopage naturel, le dopage humain, c'est l'adrénaline. L'adrénaline qui fait un pic et nous laisse faire des choses fous que, normalement, on n'a pas le courage de le faire.
Écoutons Jacques Brel, On n'oublie rien.
On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. ni ses bras blancs d'une seule nuit, collier de femme pour notre ennui que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien, de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire, ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête, ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien, de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout.
C'est ça qui est terrible. On se souvient avec plaisir de nos bons coups et on se souvient avec tristesse de nos mauvais coups.
Parfois, on les oublie carrément.
Oui, hein.
Ça m'est arrivé, en tout cas. Ben, c'est la nature humaine, tu sais.
La question que j'allais poser, c'est est-ce que le souvenir, comment on dit, sélectif, que nous faisons de nos bons coups et de nos mauvais coups, de nos actes de courage, ouais, et de nos actes de lâcheté, est un instinct de survie.
Tout à fait. Le cerveau humain est tellement complexe qu'il fait parfois des shutdowns. Tu sais, le bouton on, off,
oui,
ça, il le fait avec les souvenirs. On a tendance à, comment dirais-je, notre cerveau nous fait voir qu'on est courageux. On est des spartiates, comme on dit. On est des supermen.
Oui.
Mais parfois aussi, on ne l'est pas.
Parce que c'est ce que j'allais justement relever, que on aimerait être comme les super-héros des bandes dessinées.
Oui.
Sauf que dans la vie de tous les jours,
c'est pas la même chose.
Nous sommes loin d'être ces super-héros.
C'est une autre bande dessinée dans la vie de tous les jours.
Bon.
On aime bien avec un claquement de doigts,
oui,
on change tout. Mais là, si nous nous n'ayons pas ce courage pour persévérer, c'est nous qu'on va changer vers le mauvais.
Bon, et là où je voulais m'en aller, c'était... Est-ce que ce n'est pas faire preuve de courage que de se rendre compte qu'il y a les héros, les super-héros des bandes dessinées et nous autres de la vie de chaque jour,
oui,
et qu'il y a un écart entre les deux individus, enfin les deux groupes d'individus.
Tout à fait, tout à fait.
Et que c'est faire preuve de courage que de se rendre compte de ça.
Déjà, ça, c'est un courage. Déjà, d'affronter, ça, c'est un courage parce que pour savoir, pour connaître que, par exemple, les bandes dessinées qui passent à la télé, là, avec les petits, là,
oui,
c'est la génération de télé, d'iPad, de tablettes, d'Internet. Pas comme nous, on est les anciens. On jouait dans la rue, on jouait avec des trucs qu'on peut toucher.
Mm-hmm.
Là, c'est tout éphémère. Et là, d'un coup, ils sortent. Et dans la société, il faudra vraiment du courage pour qu'il fasse frontière avec tout ce qui est virtuel, tout ce qui est réel.
Est-ce que, compte tenu de ça, le vrai courage n'est pas le choix que nous devons faire à chaque instant, continuellement?
Oui.
Est-ce que ce n'est pas ça le courage, en fait, en réalité?
Tu sais quoi?
Non.
Notre venue au monde est déjà un courage. Pour de vrai. Chaque instant, c'est un challenge, en fait. chaque instant de cette vie, c'est un challenge. Nos choix, c'est un courage. Pour faire
donc, notre façon de réagir par rapport à chaque défi
oui.
qui nous interpelle est un courage.
Oui. Le fait de changer de vie, c'est un courage énorme. Tu l'as expérimenté, j'en ai expérimenté. Plusieurs personnes qui nous écoutent ont expérimenté ça. De changer complètement. Hey, tu prends tes valises et tu vas dans une autre culture pour t'intégrer, pour faire ta vie. Ça, il faut beaucoup de courage. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est pas les Anandas, c'est pas tous les mortels qui peuvent faire ça. De sortir de la zone de confort professionnel, culturel. Il y a des gens, par exemple, qui font ce qu'on appelle pour changer de travail. Ils sont tannés, par exemple, d'être animateur. Bah, je vais essayer d'être autre chose. Ça nécessite du courage de sortir de sa zone de confort et de voir d'autres faciès chez la personne.
On a parlé d'Épictète tout à l'heure. Son maître essayait de lui casser la jambe et attendait qu'il le supplie. Bon, et lui rappelait doucement à son maître, le plus doucement possible, qu'il allait lui casser la jambe et que la jambe était sur le point de casser. Finalement, la jambe a cassé. Bon, ça me rappelait un peu aussi les négociations entre les syndicats et le gouvernement. Des gens qui ont essayé de demeurer polis malgré les difficultés des négociations.
Il n'y a pas d'autre choix, mon cher. Mais s'il n'y a pas de négociation, il y a quoi ?
Bon, mais tu vois, je suis heureux de te l'entendre dire parce qu'il y a des gens qui vont déverser leurs états d'âme négatifs ailleurs qu'au niveau de la table de négociation. Ce que je voulais saluer, c'était le courage de demeurer urbain, de demeurer correct, de demeurer poli.
Le fait de faire la guerre, c'est simple. Le fait d'infliger des souffrances à d'autres personnes, c'est simple. C'est pas du courage, ça. Le fait d'avoir la paix, ça, c'est du courage. Le fait qu'on s'assoie sur une table de négocier, le fait d'avoir des compromis. On est ennemis, d'accord. Mais pour notre bien, on devra avoir notre courage entre deux mains et s'asseoir les yeux et parler les yeux dans les yeux.
Pour faire des compromis.
Tout à fait, c'est ça, le fait d'avoir un courage.
Prenons une transition musicale suivie d'une pause publicitaire. Tu nous reparles des compromis.
Ok, ça va.
Oui, tout juste après.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En Moukaosit. C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante communication avec s à commercial allier.ulaval.ca. Venez vite. L'Allier, votre allié pour toujours.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est là.
Les Remparts de Québec reçoivent les Voltigeurs de Drummondville ce dimanche 21 janvier à 15h. Recruté vous attend dès 14h45 pour son habituel avant-match. Remparts Voltigeurs, dimanche à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ahmed, tu nous parlais du vrai courage pour faire la paix, pour faire des compromis. Alors que, à première vue, on voit le courage dans le fait de se battre. Même si je fais une petite parenthèse, il y a un boxeur connu qu'on appelle Mike Tyson qui dit que tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne une droite. Bon.
Qui achève la droite de Tyson.
Tout le monde a compris, c'est ça. Bon, mais comment peux-tu être formel que le courage est au niveau des compromis et pas au niveau de la bataille?
La bataille en elle-même, c'est un instant entre nous. Le fait d'aller faire la guerre, ok. Il y a un financement, l'armée, allez, on y va, se casser la gueule mutuellement, comme on dit. Alors, on se bat, il y a des morts, il y a des victimes. Mais pour dire stop à tout ça, c'est pas simple. Parce que la solution de facilité, c'est la violence. La violence, c'est l'atout des gens faibles, qui n'ont pas d'arguments. Il est difficile d'avoir des arguments pour négocier. Et c'est facile de lancer une droite. Tyson parlait de la droite, la droite que la vie nous donne.
Enfin, c'est parce que Tyson est droitier.
Oui, la droite de Tyson, ça nous achève. Ça.
On peut pas résister.
On peut pas résister. Mais il parlait de le coup de poing de droite de la vie, pas vraiment le poing qu'on a physiquement, genre des challenges qu'on a chaque jour, qu'on a les épreuves, tout ce qui est épreuve qu'on devra surmonter, c'est ça. Et la semaine dernière, on a échangé par rapport à tout ce qui est coup, qui nous laisse fort. Ça nous tue
pas. Oui, c'est ça. Que ce qui ne nous tue pas
nous rend
plus fort. Oui, ouais. C'est ça. Que moi, je conteste encore aujourd'hui. Parce que parfois, ce qui ne nous a pas tués nous a tellement magané que nous ne ressortons pas plus fort.
Bon, mais avec le courage, je crois, on apprend de cette expérience-là et on avance. On n'a pas d'autre choix. Si on est magané, oui, on continue, on s'arrête.
Donc, c'est peut-être dans cet ordre d'idée que la non-violence est un acte de courage.
Tout à fait. Tout ce qui est militantisme contre les oppresseurs, avec la non-violence, un acte de courage. Je cherchais la définition des compromis.
Oui.
Déjà, les synonymes sont l'accord, l'arrangement, la concession, la conciliation, le consensus et la transaction. L'acte de courage, l'acte de compromis, c'est quoi? C'est un acte qui scelle un échange de promesses. D'accord? C'est le résultat d'une négociation entre les parties en présence où chacune aura fait des concessions pour arriver à une solution commune qu'elles devront conjointement exécuter, passer un compromis. Le courage, il est où? C'est le fait de négocier entre ces deux parties et avoir un accord commun. J'avance, t'avances. On avance contre au courant parce que le fait de négocier, par exemple, prenons le cas, par exemple, des guerres. Il y a deux peuples qui sont en guerre. Le fait de négocier, il y aura sûrement une grande partie de peuple A ou B qui serait contre cette paix. On est vainqueur, pourquoi vous voulez faire la paix? On va vous écraser. Ça se répète toujours, ça. Le fait de prendre une position. Anwar Sadat, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit en proposant la paix au Knesset?
Non.
Qu'il est parti?
Non.
Il a dit, le fait de venir ici, c'est un acte de courage. C'est pas la guerre en elle-même.
Oui, dans sa position, oui. Dans sa position, oui. Il y avait d'ailleurs deux positions. Il y avait ceux qui pensaient qu'il avait, enfin plusieurs positions. Mm-hmm. Il y en a qui pensaient qu'il avait du courage. Mm-hmm. Il y en a qui pensaient qu'il était un lâche. Il y en a qui pensaient qu'il était fou.
Est-ce que la folie et le courage ne vont pas ensemble?
Bon, nous discutons de ça depuis le début de l'émission, pour dire que, selon Mathilda, le courage n'a rien à voir avec la folie, parce que le courage est un choix conscient. Ça, c'est Mathilda qui pense. Bon, mais maintenant, nous pouvons le discuter. À son de cloche, nous admettons tous les points de vue.
Cher Mathilda.
Oui.
Le courage, c'est un sentiment qu'on a. Oui, on peut calculer parfois, mais c'est des réactions chimiques qui sont en nous.
Donc, tu mets le courage avec un certain instinct.
Oui, tout à fait. C'est un certain instinct et la certaine, surtout l'adrénaline, l'hormone du courage.
Mm-hmm.
C'est l'hormone du courage, pour de vrai. Parce que c'est comme l'hormone de donner heureux, c'est la dopamine. L'adrénaline.
La dopamine, bon, l'hormone du plaisir.
Oui,
de la récompense.
C'est ça, ça nous rend heureux après.
Exactement.
C'est ça, la dopamine, tout le monde la cherche depuis la nuit des temps, là.
C'est ça.
L'adrénaline, ça nous donne vraiment, ça nous pousse. Ça sort ce qu'on appelle. Le courage dans nos tripes, là, mm-hmm. Ça nous fait sortir nos tripes. C'est ça. Parce que peut-être elle a pris le courage d'un angle. J'essaie de prendre le courage sur plusieurs. Le courage du sportif, du politicien, du militant, du père ou de la mère de la famille, du travailleur, du monsieur ou madame tout le monde qui se lève chaque matin ou ils vont travailler chaque soir. Tout ça, vraiment, ça se travaille dans la tête. C'est des choix qu'on fait, mais aussi c'est notre chimie à l'intérieur de nous qui fonctionne à merveille aussi. On a tendance à oublier qu'on a plusieurs facteurs qui sont très, très... Ils nous poussent à faire des choses qu'on n'a pas cru qu'on peut le faire.
Augustin Becci, je me souviens.
D'une vieille photo jolie ou d'un brouillon griffonné et froissé pour qu'on se rappelle des souvenirs qu'on croyait oublier. Cinquante ans déjà et nous sommes toujours debout à travailler ensemble avec nos frères et sœurs du monde entier. Nous continuons aujourd'hui parce qu'il y a des besoins et nous poursuivrons tant qu'il y aura des besoins. Comme l'eau qui coule sous les ponts, le temps n'emporte pas tout. Il reste souvent bien des choses dont on se souvient parfois. Pa 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 p Pour ceux qui, comme au Québec, ont pour devise, je me souviens, on se demande à l'usage, ce souvenir, ça sert à quoi? L'esclavage des Noirs qui continue, les brimades sur les femmes qui perdurent, les guerres à travers le monde, ce souvenir, ça sert à quoi? Nous avons une pensée profonde et sérieuse pour les personnes des Premières Nations à travers notre monde dont les droits fondamentaux ne sont toujours pas reconnus. D'une fois à l'autre, on n'apprend pas, on change plutôt le mal de place. Et c'est ainsi qu'on agit, malheureusement, depuis trop longtemps. Arrêtons de détruire la nature, accueillons les migrants maintenant. Donnons la main à ceux qui en ont besoin, ce qui n'est pas donné est perdu. La naissance à la mort, il y a la vie, quoi qu'on fasse, qu'elle fasse des sourires ou des grimaces, nous nous devons faire avec. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est notre responsabilité d'être heureux quand on vit sur la terre et bâtir un monde meilleur. Alors proposons comme devise pour la vie l'amour et l'amitié. L'amour qui produit tout, l'amitié qui supporte tout. Proposons comme devise pour la vie l'amour et l'amitié. L'amour qui produit tout, l'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout, l'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout. L'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout. L'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout. L'amitié qui supporte tout.
Alors, le courage, est-ce que c'est le souvenir? Est-ce que c'est les encouragements? Quel est le moteur du courage?
C'est le défi.
Okay.
C'est les défis qu'on voit quand on croit sur nos chemins. C'est vraiment les défis, c'est le moteur du courage. Parce que s'il n'y a pas de défi, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment du courage à les surmonter? Si les chemins vraiment sont tous goudronnés, là, plates, est-ce qu'on peut avoir vraiment du courage? Alors, on sera nous aussi plates, genre, on marchera tranquillement sur cette route-là. Mais s'il y a des sentiers, si le terrain il est tellement accidenté que chaque fois on devra grimper ces murs, sortir des trous et avancer, et vraiment épuiser dans notre courage pour avancer.
Tu nous amènes à un autre point très important. Il y a un penseur français, je le cite de mémoire, que l'homme, l'être humain, se découvre quand il se mesure avec l'obstacle.
Oui.
Et ici, je voudrais aussi rappeler quelques bonnes feuilles de notre ami Ryan Holiday qui parle du courage. Alors, commençons par une petite citation de qui ? De Walt Whitman. Oh, lutter contre des supériorités écrasantes, affronter les ennemis en indompté. Être absolument seul contre eux pour mesurer combien on peut supporter. Regarder conflits, tortures, prisons, haine populaire en face. Monter sur l'échafaud, s'avancer vers le canon des fusils avec une parfaite nonchalance. Être en vérité un dieu. Avoir du courage, c'est gérer la peur et triompher d'elle. C'est la décision face au danger, ou jour après jour, d'affirmer son pouvoir d'agir sur une situation, sur soi-même, sur le destin auquel tout le monde s'est résigné. On peut maudire l'obscurité ou allumer une bougie. On peut attendre que quelqu'un vienne nous sauver ou on peut décider de se lever et de se délivrer. Que décidera-t-on? Chaque héros est confronté à ce choix. Notre discernement, le tournant décisif, le moment de vérité. Serez-vous courageux? Allez-vous vous exposer? Quel caractère allez-vous révéler? Si la lâcheté consiste à ne pas faire son devoir, le courage est la décision de s'engager et de le faire. Répondre à l'appel, vaincre la peur et saisir son destin. Faire ce que l'on ne peut pas faire parce que cela doit être fait. Avec force et esprit, courage et cran, même si l'on ne sait pas si l'on va réussir. Ce ne sera pas facile, mais nous ne devons pas avoir peur. Comme dit Shakespeare, faisons face aux circonstances dès qu'elles s'offriront à nous. Notre destin est là, saisissons-le. Ici, quelqu'un est en train de redire en ces mots ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, que le courage, en fait, c'est répondre présent aux défis qui nous interpellent au fur et à mesure. Mais comment savoir si on fait le bon choix?
Ça.
Ou bien si on a la bonne réaction?
Bah ça dépend de si on a la bonne réaction, c'est-à-dire que d'avoir surmonté cet obstacle.
Non, non. C'est-à-dire, un exemple, Ahmed sort dans le couloir de l'université. Et puis il y a quelqu'un qui, un homme petit, arrive et lui donne une gifle. Bon. Bon,
merci.
La gifle est tellement soudaine et elle est énervante parce que les lunettes d'Ahmed volent sur le plancher et se cassent.
Merci beaucoup.
Bon, la première réaction d'Ahmed, ça va être de rendre la gifle.
Bah déjà sans lunettes, ça sera difficile.
Bon,
oui,
bon. Et maintenant, dans la tête d'Ahmed, il y a ouais, c'est compliqué pour moi de fonctionner sans lunettes. Et le temps d'aller me faire de nouvelles lunettes, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu de gérer à court terme. Bon, l'autre élément, c'est. Je n'ai pas mérité cette gifle.
Bah oui.
Le gars me l'a donnée, mais je n'ai rien fait pour. Il me semble que j'ai été pacifique tout ce temps.
Bah, soit d'essayer. Il y a deux choix.
Oui.
Soit d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Soit de le rendre. Pas que la gifle, mais. La droite de Tyson. Il y a deux choix à faire. Mais. Et là, il y a le courage. La solution la plus simple, c'est la droite de Tyson. Pour de vrai. La solution la plus simple,
oui.
C'est de lâcher. Bah, c'est comme
mais ça ne règle pas le problème des lunettes.
Voilà.
Et ça empire même les affaires parce que quand tu lui donnes la droite de Tyson, bon, il perd tes trois dents de devant et tout ça. Et maintenant.
De 1 à 2 à 3, ça, ça va s'empirer.
Exactement.
Ça sera une pile de problèmes après.
Tout à fait.
Le fait d'avoir du courage, vraiment, de comprendre,
de se retenir.
Se retenir et voir ce monsieur là, dans les yeux. Qu'est-ce que t'as ?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a ? Raconte. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? On peut parler. D'accord, je ne vais pas porter plainte. Ok, cool. Mais on va parler. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'as fait ça ? De toutes les façons, on doit comprendre, finalement. Et il doit assumer, bien sûr, ses responsabilités, mais le courage, c'est de ne pas faire. De ne pas tomber dans le piège de la colère. C'est de la colère, c'est là la folie.
C'est ça. Oui. Ouais. Je me souviens que il n'y a pas longtemps, on jugeait quelqu'un qui était coupable d'actes de violence. Bon, il n'avait aucune raison. Il a juste dit que il avait une impulsion d'agresser du monde.
Bon.
Le maire Labo m'a même dit à un moment, suite à un grave incident qui avait lieu à Québec, quelqu'un qui, avec un sabre, essayait de varger sur tout ce qui bougeait. Le maire Labaume a été un des premiers à parler de la maladie mentale. Bon. Parfois, on ne sait pas pourquoi les gens agissent comme ça, violemment, sans crier gare. Bon, c'est souvent des problématiques de maladie mentale et on est juste une personne au mauvais endroit, au mauvais moment.
Tout à fait.
Oui. Et c'est faire preuve de courage, comme tu viens de l'exprimer, que de vouloir calmer les choses, pour voir clair dans ce qui se passe, même si on est la victime.
Oui.
Mais bon, l'élément que je voulais apporter, c'était, est-ce que c'est facile d'être courageux quand on est une victime injuste ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que, écoute, j'ai travaillé dans des terrains où vraiment on est au bout de nerfs. On est tellement sollicité, on est stressé. L'enjeu, c'est ta vie. C'est l'enjeu suprême, tu vois. Genre, c'est pas l'enjeu que tu reçois pas ta paye, c'est l'enjeu que tu rentres pas. Et dans ce genre de travail, il faut garder toujours la tête froide pour mieux analyser. C'est la même chose dans ces situations-là. Si on s'énerve, déjà, le champ de vision, il est rétréci. Déjà, tous nos muscles sont tendus et la première chose qu'on fait, c'est de sortir la droite ou la gauche. On ne peut pas faire autrement, c'est la nature humaine.
La petite phrase que j'attendais et sur laquelle je voulais rebondir, c'est « si on s'énerve ».
Oui.
Alors, si on s'énerve, peut-on encore être courageux ?
Si on s'énerve, la colère, il y a des degrés. Il y a la colère bénéfique qui nous pousse, qui nous donne du courage.
Okay.
Mais c'est aussi il y a la colère qui nous rend aveugle. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne veut que se venger.
La sagesse des nations dit que la colère est une courte folie.
Tout à fait.
À côté aussi, on dit que certains êtres évolués nous rappellent que c'est nous qui choisissons de nous mettre en colère. Bon,
comment on peut choisir d'être en colère ou pas, ne pas être en colère.
J'ai des réserves vis-à-vis ça.
Oui, moi aussi.
Et je me dis que bon, il faut être particulier pour faire ce genre de choix, mais revenons à notre argumentation. Si on s'énerve, peut-on encore être courageux?
À un certain point, comme je disais, la colère à plusieurs faciès, à plusieurs niveaux. La colère nous rend courageux aussi. Elle nous pousse à faire des choses, mais la colère qu'on peut gérer, qu'on peut canaliser, qu'on peut rendre cette énergie négative en énergie positive. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes adolescents, faites du sport. Parce que ça canalise
l'énergie.
L'énergie, la colère, la violence, ça canalise ça. on devra, nous, comme adultes, essayer de canaliser cette colère-là pour la rendre en courage, pour surmonter. On est énervé contre la vie, on est en colère contre la vie, sur le destin, mais on devra forcer le destin aussi. Comment on peut forcer le destin? C'est comme pour forger le fer. Il est dur, mais on le forge pour faire des fenêtres, pour faire beaucoup de choses, pas que ça. La vie, le destin, on devra le changer aussi à travers notre courage. On ne baisse pas les bras devant un obstacle, on ne baisse pas les bras devant la première épreuve. On est en colère contre la vie, modérément, bien sûr, je parle. Cette colère-là, on essaie de la transformer en énergie, en courage. En fait, c'est un carburant. On carbure avec ça. Mais bien sûr, le fait d'être modéré, parce qu'après, on tombe dans tout ce qui est obscur. Et ça ne sert à rien. On ne peut pas avancer. On sera tendu. Et lorsqu'on sera tendu, tout notre système nerveux sera focalisé dans ça. On ne peut pas rien voir ni rien écouter. Et on fonce direct dans un mur.
Prenons une pause musicale suivie une transition musicale suivie d'une pause publicitaire. Nous vous revenons tout juste après.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3. Avec Augustin Becci.
Vous recherchez une émission qui donne la parole au peuple, travaille pour les intérêts du peuple et aborde les problèmes quotidiens de la vie? Ne cherchez plus. La Tribune pour le Peuple, l'espace des libertés pour s'exprimer, votre émission incontournable animée par Jean-Luc Oumba le Bantou, chaque mercredi à partir de 14h, sur Cheese 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous? Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
J'ai besoin de ton point de vue sur une position assez curieuse. C'est très souvent d'autres personnes qui jugent de notre courage ou de notre manque de courage ou de notre grand courage. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Écoute, c'est l'image, le courage, ça nous donne l'image qu'on reflète. Tu sais, chaque chose qu'on fait, c'est une image qu'on reflète aux autres.
Mmh.
Et depuis longtemps, le fait d'avoir courage, ou le fait de la lâcheté, ou le courage, la colère, ou d'être heureux, c'est des sentiments qu'on voit sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si ces autres personnes de voir, ils ont tendance, les gens ont tendance à mettre des étiquettes sur les personnes. Mais à la base, c'est le courage. Un sentiment en nous.
C'est ça.
On doit garder pour nous.
C'est parce que depuis que nous échangeons, depuis le début de l'émission, on a surtout souligné que le courage était une impulsion individuelle.
Oui.
Sauf que, très souvent, il faut l'assentiment du monde autour, ou d'autres personnes. Ça peut être à travers l'espace et le temps.
Mm-hmm.
Bon, c'est un peu pour démêler ça que je posais ma question.
Oui, c'est ça. En fait, en tout cas, le courage n'est pas qu'individuel, en fait. C'est juste ça. Le courage, on le sent en nous-mêmes, mais il y a le courage de la société aussi.
Mm-hmm.
On peut avoir un sentiment de courage collectif pour avancer.
Bon, ou une lâcheté collective aussi.
C'est sûr, c'est sûr. Et ça... Le positif ou le négatif, ça va de soi. Mais comme je te disais, c'est nous autres, là, on a tendance à donner des étiquettes à toute personne.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on traite une personne de courageuse, de lâche, de lâche. Il n'y a pas personne 100% courageuse, il n'y a pas une personne
100% lâche. Bon, je vais prêter de nouveau ma voix à notre ami Ryan Holiday sur une rubrique. Ne remettez jamais en question le courage d'autrui. Alors que James Baldwin réfléchissait à la mort de son père, qu'il aimait et détestait tout autant, il s'est rendu compte qu'il n'avait vu que l'extérieur de cet homme. Derrière ses échecs en tant que parent se cachait une lutte interne que nul autre n'aurait jamais pu saisir pleinement. C'est pourquoi les paroles du prêtre aux funérailles de son père le frappèrent si durement. Tu connais la chute de cet homme, mais tu ne sais pas son combat. C'est très facile de juger, c'est très difficile de savoir. De savoir ce qu'une autre personne endure, de savoir quelles sont ses raisons, quels risques interdépendants elle essaie de gérer, qui et quoi elle essaye de protéger. On raconte une anecdote sur Nikita Khrushchev, après qu'il soit devenu premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Sur scène, s'adressant au Politburo, il dénonça les crimes du régime de Staline. Un membre fit passer un mot anonyme à l'avant de la salle. Oui, mais où étiez-vous à l'époque? Ayant du mal à répondre, Khrouchtchev marqua une pause, puis répondit : J'étais là où vous êtes maintenant. C'est-à-dire dans le public, anonyme, ne faisant rien, comme tout le monde. On ne sait jamais pourquoi quelqu'un s'est dégonflé, pourquoi il s'est dérobé, pourquoi il n'a pas pu y arriver. Il est difficile pour les gens de comprendre que leur salaire dépend de faits qui les dépassent. Nous ne connaissons pas toute l'ampleur de la lutte et du fardeau qui écrase les autres. Nous devons essayer de ne pas les blâmer, car nous ne pourrons jamais vraiment apprécier leur expérience. Ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de domaines de la vie dans lesquels la peur nous retient, nous aveugle, nous brise. C'est délicat. Parfois, les gens peuvent être audacieux et intrépides dans une partie de leur vie et faire preuve d'une extrême lâcheté, généralement morale, dans une autre. Parce que les gens compartimentent, parce que nous rationalisons. Cette bataille contre la peur est un travail de longue haleine. Aucun d'entre nous ne la gère si bien qu'il peut se permettre de passer beaucoup de temps à surveiller comment les autres s'en sortent avec la leur, hier ou aujourd'hui. Le mieux que nous puissions faire est d'apprendre de nos pères, passés et présents, et d'appliquer leurs leçons à notre propre vie. Si vous aviez vécu pendant l'esclavage, pendant l'impérialisme, si vous aviez assisté à la montée de l'antisémitisme en Europe, si vous étiez né dans la Russie soviétique ou dans la Chine de Mao, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous été capable d'aller à contre-courant de votre époque? Auriez-vous été assez courageux pour penser de manière indépendante? Auriez-vous été capable de résister à toutes les incitations et normes culturelles du moment pour affranchir vos esclaves ou accepter votre fils gay ou défendre les droits des femmes? La peur est l'élément déterminant dans ces réponses. Personne ne peut vraiment savoir ce que ça ferait de vivre à une autre époque et dans un autre lieu avec des hypothèses différentes, des hypothèses partagées par tous ceux que vous rencontrerez et tout ce que vous avez lu. Mais c'est aussi très clair, qu'auriez-vous fait à l'époque? Comme dit Khrouchtchev, vous auriez fait la même chose qu'aujourd'hui. Ne vous embêtez pas avec « que ferais-je si j'étais à leur place ?» Demandez-vous plutôt « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Dans vos propres vies, avec vos propres peurs. Des gens vont craquer, comprenez-le. Des gens vont se battre, comme dirait Épictète, façonné par l'empathie qu'il cultiva pendant ses 30 années d'esclavage. Tant que nous ne connaissons pas les raisons de quelqu'un, nous ne savons pas qu'il a mal agi. Nous ne savons pas non plus à quel point les courageux étaient terrifiés. Seul le linge savait à quel point j'étais terrifié, déclara Louis Zamperini en se remémorant son séjour en tant que prisonnier de guerre dans le camp japonais de Naoetsu. Heureusement, cette peur ne l'a jamais brisé, pas complètement, en tout cas pas publiquement, mais il s'en est fallu de peu. Ne jugez pas de peur d'être jugé. Cela signifie-t-il que personne ne doit jamais être tenu pour responsable pour une action ou une inaction? Bien sûr que non. Cela signifie simplement que pour l'instant, nous ferions mieux de nous occuper de nos affaires. Occupons-nous de nos affaires, occupons-nous de ce qui compte, pas de condamnation ou d'investigation. Les clochards de Washington, les bureaucrates de Bruxelles, les imbéciles en entreprise, oui, ce sont des lâches. Mais qu'en est-il de vous? Que faites-vous? Si nous devons condamner quelqu'un pour sa lâcheté, que ce soit en silence, par l'exemple. Ne perdons pas une seconde à remettre en question le courage d'un autre homme ou d'une autre femme. Examinons plutôt le nôtre. Ça, c'est notre ami Ryan Holiday, dans son livre « Le choix du courage ». C'est une énorme leçon.
Oui, ça, et j'écoutais ça et ça m'a fait penser à... Ça me fait remonter plusieurs souvenirs. Mm-hmm. On parlait des oppresseurs, mais avant 2011, je me souviens très bien là, des âgés des assemblées qu'on faisait en pleine cour des universités. Mm-hmm. On était 5 personnes dans des universités de 20 000 personnes. On était une dizaine dans des universités de 30 000 personnes. Les gens ont peur. Et on les comprend à l'époque. Pas. Le fait d'arriver à les comprendre, c'était difficile, mais on les comprenait parce que le fait de chercher son courage dans ses tripes, de faire sortir pour critiquer son obsesseur, le dictateur, si on peut dire ça, c'était très, très difficile. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des gens qui ont peur pour leur travail, pour leur confort de vie. Et à la vingtaine, c'est facile d'avoir du courage. À la quarantaine, c'est bien moins facile. À la cinquantaine, c'est difficile.
Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de nous?
Bah oui. À 20 ans, on est fou. On réfléchit avec notre cœur. Mm-hmm. On est fonceur. Mm-hmm. On aime l'aventure. Et ça nécessite du courage. On n'a rien à perdre. À 20 ans, allez, on y va. Veux-tu qu'on fasse ça? Je veux. Et en France, à 40 ans, bon, à trentaine, 40, on commence à
moduler.
À moduler, à réfléchir un petit peu, à utiliser la matière grise qu'on a oubliée durant la vingtaine.
Est-ce que nous pouvons donc dire qu'il y a le courage, on va du courage inconscient,
oui,
au courage le plus fou?
Tout à fait.
Ou vice-versa, que c'est, le courage est un continuum.
C'est un continuum, mais il change de faciès. C'est-à-dire, on est fonceur, puis après il y a le cerveau qui intervient, mm-hmm, à un certain âge pour calculer les risques, les avantages, les inconvénients, mm-hmm, de ce courage-là. Après, ça vient tout ce qui est famille, tout ce qui est job, tout ce qui est souci qu'on a de la société.
Donc le courage dépend aussi des responsabilités.
Tout à fait. Tout à fait. Être un fonctionnaire, on a du courage, c'est pas le même courage qu'on est dans la fonction publique ou qu'on est fonction privée ou commerçant. Citons un titre d'exemple. Un militant dans une fonction publique, il fait de la grève, il va revenir. Il peut dire ce qu'il veut. Il fait de la grève, il peut revenir à ses fonctions, n'est-ce pas?
Non, un commerçant.
En principe. Un commerçant, peut-il fermer son commerce et faire la grève? Il va perdre beaucoup d'argent.
C'est
beaucoup
ça.
De clients. Perte de notoriété.
La logique de son activité, c'est les rentrées d'argent.
Tout à fait.
Qu'il ne peut pas se permettre si jamais il n'a pas d'activité.
Tout à fait. Le secteur privé, même s'il est syndiqué, s'ils font de la grève, il y aura des problèmes avec le boss après. Mmh. Il y a des rancunes après. Mmh. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et chacun a son propre courage. Et chacun, on doit le comprendre et le respecter par rapport à ça.
Alors, puisque nous ne pouvons pas connaître, suivant les circonstances, suivant les individus, les tenants et les aboutissants de chaque courage, est-ce que ça ne nous incite pas plutôt à de la tolérance?
Tout à fait.
À la compréhension, à la bienveillance?
C'est ça. L'achèvement de l'idée, c'était ça. C'était qu'on soit ouvert à nous autres. Mm-hmm. On se comprend. On essaye d'argumenter les autres, ne pas dire « Non, on va bâtir un mur de glace. » Non, tu tiens ta position, je tiens ma position, je te comprends pas. On se comprend pas mutuellement. Et je te traite de lâche. Non, c'est pas ça. chacun a ses obligations. Chacun de nous a ses obligations, ses défis. Mes défis à moi, quant à Ahmed, ce n'est pas les défis d'Augustin, n'est-ce pas ? C'est tellement différent, mais on se pose sur une table, on se regarde et on jase, et on trouve des compromis pour y vivre ensemble. Et c'est ça ce qu'on appelle les lois aussi, n'est-ce pas ?
Ah.
Les règles de la vie en commun.
Wow. Écoutons Myriam Makeba nous chanter l'Afrique, parce que on s'est entendu que c'est la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est la fête en Afrique, là.
C'est ça.
شعبا صبل للنضال شعبا صبل للقتال
notre émission tire à sa fin. Mmh. Et on voulait l'achever, la conclure avec certains actes de courage. Ici, Myriam Makeba est en train de chanter en Algérie.
Oui, elle, plusieurs langues, mais là, je suis libre en Algérie. Je suis libre en Algérie. Je chante pour la liberté, rouler les tambours pour la liberté, pour le combat de liberté. C'est pour ça que je regarde. Mais, parlant d'Afrique, juste une petite remarque. Oui. Le nom d'Afrique, il vient d'où? Pourquoi l'Afrique, elle s'appelle Afrique?
Bon, je ne sais pas trop.
Ça sera... C'est les courageux, les peuples défrits. C'est l'actuelle Tunisie. C'était okay. Au nord-ouest, l'actuelle Tunisie, au nord-ouest de Carthage. Après, il s'appelait l'Africa Proconsularis, à l'époque romaine. Mm-hmm. Et c'est devenu Efriqiya. C'est le nom médiéval arabe musulman pour l'Afrique du Nord. Ça englobe maintenant toute l'Afrique. Ça vient de la Tunisie, le peuple d'Efri. Africa Proconsularis, Efriqiya, Africa.
Et c'est d'ailleurs le nom que Myriam Makeba a utilisé pour sa chanson. Je vais encore utiliser une bonne feuille de notre ami Ryan Holiday avant de te laisser un mot pour la fin, pour clore notre émission.
Okay.
Ne soyez pas découragés par les difficultés. Sénèque se prépara à toutes les possibilités et difficultés de la vie, mais il ne pensait pas que tout cela lui arriverait. La guerre, le naufrage, la torture, l'exil, tout cela, plus la tuberculose, la perte d'un enfant, la folie de Néron, les critiques calomnieuses. D'un côté, il devait penser que tout cela était malheureux. De l'autre, il savait que cela faisait de lui la personne qu'il devait être. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », écrit-il. « De tout ce qui me semble terrible, il n'y a rien qui n'ait été vaincu, qui ne l'ait été par plus d'un mortel. Le feu par Mucius, la croix par Régulus, le poison par Socrate, l'exil par Rutilius, la mort au moyen du fer par Caton, nous aussi sachons vaincre quelque chose. » Ne vous inquiétez pas de savoir si les choses seront difficiles, parce qu'elles le seront. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait que ces choses vous aideront. C'est pourquoi vous ne devez pas les craindre. Nos bleus et nos cicatrices deviennent des armures. Nos luttes deviennent de l'expérience. Elles nous rendent meilleurs. Elles nous ont préparés pour ce moment, tout comme ce moment nous préparera pour celui qui nous attend. Elles sont l'arôme qui donne à la victoire un goût si doux. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si tout le monde le faisait, quelle valeur cela aurait-il? C'est difficile et c'est là l'important. Le risque est une caractéristique, pas un défaut. Nec aspera terrent. Ne soyez pas effrayés par les difficultés. Soyez comme l'athlète qui sait ce qu'un entraînement difficile lui apporte, des muscles plus forts. Il n'y a pas mieux que l'adversité, dit Malcolm X. Chaque défaite, chaque choc, chaque perte contient sa propre graine, sa propre leçon sur la façon d'améliorer votre performance la prochaine fois. Comment pourriez-vous avoir confiance en vous si vous n'aviez pas vécu des choses plus difficiles que cela? Comment pourriez-vous croire que vous êtes capable de survivre à cette épreuve si vous n'avez pas survécu à d'autres épreuves auparavant? C'est ce qu'il y a de plus fou chez les gladiateurs du Colisée. Croiriez-vous que beaucoup étaient volontaires? Ils voulaient savoir s'ils avaient ce qu'il fallait. Nous avons tous besoin d'adversaires et d'adversité pour exister. La paix et l'abondance engendrent les lâches, disait Shakespeare. La nécessité fut toujours mère de l'audace. Ce n'est pas une mauvaise chose que cela nous arrive. C'est un bon entraînement. D'ailleurs, tout le monde n'a pas la force de le voir comme ça. Ce moment est un test, ce que l'on appelle mise à l'épreuve, non sans raison. C'est bien que cela arrive maintenant plutôt que plus tard, parce que plus tard, vous serez meilleur pour l'avoir vécu aujourd'hui. Vous comprenez? Vous pensez que ce serait mieux si les choses étaient faciles. Vous aimeriez ne pas avoir à prendre ce risque, si seulement le saut n'avait pas l'air si dangereux. C'est juste la peur qui parle. C'est bien que ce soit difficile. Ça dissuade les lâches et ça intrigue les courageux, n'est-ce pas? Je te laisse la parole, le mot de la fin, Ahmed.
Écoute, c'est un sujet très, très, très... Tout le monde a son mot à dire sur le courage, sur la lâcheté, sur les sentiments qu'on éprouve. Mais je crois que la vie, c'est un grand fleuve, un grand chemin, un long chemin qu'on devra surmonter toutes les épreuves, quelles que soient. On ne lâche jamais les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'on devra surmonter ces épreuves-là et essayer peut-être, si on est à bout, essayer de trouver de l'aide pour mieux les affronter. Ça de une, de deux. Et je vais terminer avec ça. Il faut vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver.
Oh, on devrait te recruter comme coach de l'équipe de soccer de Tunisie.
Ben, il le faut. Avec ce qu'ils ont fait, là. C'est ça.
Bon, il nous reste encore quelques minutes. Alors, revenons à ce qui se passe. Est-ce que la Tunisie est qualifiée pour la Coupe d'Afrique?
Ben, elle joue en Coupe d'Afrique. Ah. Elle a perdu son premier match aujourd'hui et un deuxième match, je crois.
Ah, d'accord. Mmh. OK. Mais comment peux-tu expliquer ça? Il n'y a pas longtemps, la Tunisie avait été un des meilleurs pays de football en Afrique.
Oui, puis il y avait
les Atouga.
Là, c'est des légendes. ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique durant les pionniers du soccer tunisien.
Oui, ces années.
Mais c'était ils avaient la fierté. Ils jouaient gratuitement. Ils jouaient avec 100 dollars par mois. Mais là, les joueurs, pas de fierté, mais ils jouent pour des millions de dollars. C'est ça la différence. À l'époque d'Atouga, les joueurs, même de différentes équipes, étaient des amis. Ils sortaient ensemble. Mm-hmm. Mais sur le terrain, le terrain vert là, mm-hmm. Et personne ne laisse une miette, même si c'est son adversaire, c'est son ami. Ce qu'on appelle des hommes avec des moustaches, si on peut dire le cliché là. Mm-hmm. Mais là maintenant, c'est plutôt, on joue sur l'argent. Il n'y a pas vraiment la sueur dans le maillot,
bon,
dans le chandail.
La question qui est derrière ma tête, comme tu peux déjà l'imaginer, c'est est-ce que tu penses que nous demandons trop à certaines personnalités publiques et pas assez aux autres?
Oui, on demande. Les personnalités publiques, parfois ils sont surpris. Ah, pourquoi vous nous demandez ça?
Oui,
parce que vous êtes mis en premier rang. Vous êtes des personnalités publiques, c'est votre rôle d'être des leaders. C'est votre rôle d'être des locomotives.
Même pour le courage.
Oui, tout à fait. Et surtout pour ça. Et surtout. C'est là que...